RMC.
Rebound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Oh, yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC tous les mardis sur rmc.fr. On est en pleine finale NBA. C'est donc un épisode que vous attendez impatiemment. Le voici. Il est prêt, il est tout chaud, il sort du four avec Steve Brun, Frédéric Weiss et Arnaud Valadon. Bonjour, messieurs.
Salut Pierrot. Bonjour.
Et évidemment, c'est un numéro spécial finale de conférence.
Ça tombe bien.
Des finales de conférence assez inattendues, quand même, on peut le dire, puisque le tenant du titre est tombé.
Il y aura une belle nouveauté au bout. Il va soulever le trophée.
Pas forcément. Ça peut être Boston. Hein.
Oui, mais ça fait un petit moment.
Ça serait que la 18e fois de l'histoire.
Oui, hein. Mais avec Tatum, par exemple, ce serait
la première. Mais la première depuis avec lui.
Ça fait 6 ans que c'est un champion différent, je crois.
Oui, c'est ça.
Alors, donc, voici nos débats aujourd'hui. À l'ouest, l'attaque de Dallas, la défense de Minnesota. Vous faites vos jeux. Voilà, qui va prendre le dessus sur l'autre. Et puis à l'est, Indiana. Est-ce que c'est enfin un adversaire à la hauteur de Boston, qui pour l'instant ne fait qu'attendre la finale NBA, j'ai l'impression, cette année, non?
Bah, clairement. En plus, ils tombent toujours contre des équipes qui ont des blessés ou il manque des gens. Et évidemment, c'est beaucoup plus simple d'avancer.
C'est indécent, cette chance qu'ils ont quand même.
Ah, mais cette chance-là, c'est indécent. Mais on verra sur la finale. On verra.
Et dans la partie historique, nous allons profiter de la présence de Minnesota et de Boston pour parler de Kevin Garnett. À vous de me dire s'il a pu se marquer la NBA à Minnesota ou à Boston. Ce qui va nous permettre de répondre à des questions universelles. Comment est-ce qu'on marque l'histoire d'un sport?
Je pensais que tu allais dire
absolument être champion pour être une légende.
Je pensais que tu allais dire qu'on profitait de la présence de Fred Weiss pour parler de Kevin Garnett.
Oui, aussi.
Je ne sais pas pourquoi vous m'avez fait cette question-là, je ne comprends pas.
Le quiz sera consacré à l'actualité. Il n'y a pas de dinguerie, il y a juste une question de culture générale. Ah. Tout va bien. Fred, tu peux gagner ce quiz très facilement. C'est donc un Basket Time spécial finale de conférence et on commence par l'Ouest.
To the Western Conference Finals.
Doncic spinning, firing, drilling a three. Dallas keeps, here's Irving on the spot up, and it's good. A three for Kyrie Irving.
Oh, there's a steal by Edwards.
Here he comes, and there he goes. Must have gone up in three, defending Timberwolves there, guarding the rim. Here goes Murray twirling into the defense. They blitz him. He's in a straight jacket. Look at him trying to get out. He wiggles away. This defense of Minnesota has been incredible.
Luka, long two, is good. Irving has to put it up, falling away. The three around and down!
Alors, donc, finale de conférence à l'ouest, l'attaque de Dallas, la défense de Minnesota. Faites vos jeux, messieurs. On va peut-être affiner cette question en parlant de Luka Doncic plus que de l'attaque des Mavs. Arnaud, c'est un des marqueurs de ces deux franchises. C'est-à-dire que d'un côté, on a une des meilleures défenses et de l'autre, un attaquant inarrêtable, Luka Doncic.
Alors, les Wolves ont une meilleure défense. Ça, je vous apprends rien. Moins de 100 points encaissés par match. Un defensive rating, c'est-à-dire vos points encaissés sur 100 possessions à 109 contre 111 pour Dallas, qui a quand même nettement progressé par rapport à la saison régulière. Ils défendent les hommes de Jason Kidd. En revanche, et c'est la surprise, Minnesota a statistiquement une meilleure attaque que les Mavs sur ses playoffs. 108 points inscrits contre 106 pour Dallas et un rating offensif de 118 contre 115. À prendre en compte les temps de jeu, certes, Dallas a joué un match de plus, mais quand on regarde Anthony Edwards, 441 minutes passées sur le terrain, contre Luka Doncic, 505, 481 minutes pour Kyrie, et les confrontations directes en saison régulière, le bilan est largement en faveur des Wolves, 3 victoires à 1 avec de gros écarts, plus 34, plus 8 et plus 18.
Alors, t'as pas été précis sur les confrontations directes, mon grand.
Pourquoi?
Parce que sur les 4 matchs joués, c'était tout avant le trail de Gafford et PJ Washington.
Oui, mais bon.
Oui, non, ah ben non.
Je peux pas inventer des stats qui n'existent pas.
Oui, mais je suis d'accord. Il faut recontextualiser. Je suis d'accord avec Stephen. Il faut recontextualiser.
C'est pas du tout les mêmes matchs de basket avec Daniel Gafford et PJ
Washington. Donc c'est pas significatif, c'est ce que
pas
tu veux dire.
Oui, les confrontations sont régulières. Pour moi, il faut les mettre de côté.
On les oublie.
Ouais.
Très bien.
Même si Luka Doncic a mis 38 points de moyenne sur les deux matchs qu'il a joués en saison régulière.
Mais c'était avant le trade.
Ah oui, mais c'était avant le trade. Mais bon, il jouait le même nombre de minutes et le même nombre de possessions.
C'est clairement pas la même équipe, tu as raison.
De toute façon, c'est une des clés de cette confrontation. C'est est-ce que la défense de Minnesota va pouvoir limiter Luka Doncic, ce qui est très difficile.
Après, je trouve que le débat, il faut le faire. Mais je trouve qu'on se fourvoie un peu sur les qualités défensives de Dallas, qui pour moi, en playoff, fait partie des meilleures équipes défensives de la ligue. Et la confrontation contre KC l'a démontré. C'est pour ça aussi que Minnesota a des meilleurs chiffres offensifs que les Mavs, qui pour moi, défensivement, défend, et là il faut reparler de l'arrivée de PJ Washington et Danny Gafford, c'est une équipe qui défend le plomb, les Mavs, Pierrot.
On te dit pas le contraire, mais pour éliminer Dallas, il faut quand même limiter Doncic, et ça peut-être que Minnesota est capable de le faire, c'est quand même une des questions.
Oui, vas-y.
Ouais, mais après, c'est difficile de comparer, parce qu'on a vu qu'ils étaient capables d'arrêter un intérieur, parce qu'ils ont cette possibilité de mettre un joueur comme Karl Anthony Towns sur lui, et une aide de Gobert. Mais est-ce que ça sera pas plus difficile quand t'as un mec qui est tellement bon sur pick and roll, comme Luka Doncic, c'est-à-dire que si tu sors fort sur lui, il va trouver la solution. Donc ça va être beaucoup plus difficile au niveau des rotations, et je demande à voir, justement. Ça va être beaucoup plus compliqué, ça n'a rien à voir.
Oui. Donc toi, tu donnerais plutôt l'avantage à Dallas?
Moi, je me dis que Dallas, avec un mec comme Kyrie Irving à côté de Luka Doncic,
C'est compliqué, quand même. Ce qu'a fait Minnesota contre Denver, je ne dis pas que c'est simple, mais c'est plus facile à stopper une équipe de Denver parce qu'ils n'ont pas d'énormes joueurs de pick and roll. Jamal Murray n'est pas un énorme joueur de pick and roll. Et c'est tout ce qu'il y a sur les lignes arrière. Aaron Gordon et Porter Jr. ne sont pas des tripoteurs de ballon et des manieurs de ballon. Là, tu as deux mecs qui vont avoir le ballon en main, qui vont jouer des pick and roll avec deux intérieurs qui, où il y a une vraie connexion. Alors, les passes lobées, je pense que ce sera plus compliqué que face à OKC, parce que Rudy Gobert a cette dimension pour empêcher la relation Gafford
Lively
avec Doncic.
Mais c'est lui qui va impliquer sur pick and roll, parce que c'est ce qu'il a demandé.
Clairement, et c'est très complexe pour des grands garçons comme ça de défendre du pick and roll avec Luka Doncic et Kyrie Irving. Ils n'ont pas été confrontés à ça depuis le début des playoffs.
C'est d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Jokic dans la conférence de presse après match. Il a dit « Minnesota a tout pour nous emmerder ». Voilà, Minnesota, c'est l'équipe qui doit nous battre, en gros.
Et c'est ce qui ressort, c'est Minnesota est bâti pour battre cette équipe de Denver.
Moins pour battre Dallas.
Beaucoup pensent que Dallas est quelque part bâti pour battre le genre d'équipe comme Minnesota.
Après, attention, parce que Minnesota a montré aussi une variété offensive qui peut peut-être leur permettre de s'en sortir par l'attaque.
Moi, je trouve que c'est offensivement qui me surprenne. Parce que défensivement, on a vu Finch qui est capable de faire des ajustements et c'est intéressant. Mais on l'a dit, ça peut être plus simple quand tu tombes contre Denver. Mais par contre, offensivement, je trouve qu'ils ont de la variété. Parce que finalement, quand tu penses à cette équipe, tu penses à Anthony Edwards.
Mais il y a aussi Karl Anthony Towns, ils sont capables de faire d'autres choses.
Et Nasrid qui sort du banc, qui peut mettre des points. Enfin, il y a vraiment des solutions offensives, et c'est peut-être là qu'ils surprennent le plus le monde.
On se pose la question, qui pour stopper Luka ou Kyrie? Moi, je trouve que Mike Conley est à un niveau défensif encore assez...
Trop petit.
Manger sur le poste-up. Trop petit en taille.
Oui.
Peut voler les ballons. Déjà.
Moi j'aimerais bien voir Conley en post-up sur le canotif.
Là,
ça va être un clinique.
Il sera plus sur Kyrie.
Oui, mais... moi, je pense que c'est McDaniels ou Alexander Walker qui vont se mettre sur Luka.
Peut-être plus sur Kyrie. Mais qui peut...
Anthony Edwards va aller sur Kyrie. À un moment donné, Anthony Edwards, il ne peut pas se cacher. Il va falloir qu'il se mette un tête-à-tête contre un des deux mecs. Il va pas falloir.
Mais en plus,
est-ce qu'ils peuvent le stopper, Anthony Edwards?
De quoi?
PJ Washington a les qualités, je pense. Et attention à Derrick Jones Jr. aussi, qui fait une série de playoffs.
Ça va être tactiquement énormément de changements, énormément de paris de la part des deux coachs.
Et ce qu'a fait Minnesota cette saison dans la progression avec Rudy Gobert, c'est-à-dire que toutes ces années avant, Rudy, sur les défenses pick and roll, il restait très bas. Et donc, il donnait l'opportunité aux petits de faire un peu ce qu'il veut. Là, cette année, ils ont changé un peu. Hein. Rudy, il est capable de défendre un peu plus haut. Faudra voir
mais
si
lui
Rudy...
a progressé aussi,
oui, et il faudra voir si Rudy, parce qu'elle est là la clé. Parce que Rudy Gobert, il va défendre, je pense, 65 pick and roll par rencontre, que ce soit Luka Doncic et Kyrie Irving. Et la clé, c'est que Rudy est capable de tenir les duels, les 1 contre 1 et la dissuasion. Rudy a beaucoup de choses, a beaucoup de cartes en main sur cette série.
Petite parenthèse, oui. Fred, parce que je ne sais jamais trop comment tu te positionnes. Est-ce que tu as aimé la tentative de dunk de McDaniels à la fin du match 7 quand c'était plié pour humilier Denver? Tu as pensé quoi?
Pas du tout. Mais évidemment que non. Ça se fait pas. En fait, il y a des règles.
C'est ridicule.
Il y a des règles, c'est ridicule. Je comprends pas, évidemment.
D'ailleurs, il s'est fait un peu taper sur les doigts par ses coéquipiers.
Mais c'est normal. Encore une fois, il y a des règles.
Et Jokic est parti dire dans l'oreille d'Anthony Edwards, gros, ton bye-bye comme ça, public.
Pourquoi tu l'ouvres
Pas parce que je veux dire mes frères qui sont en tribune, donc fais attention quand même.
Après, la question, on se l'a posée, je crois, déjà la semaine dernière. Quelle est ta physique pour Luka? Ce qu'on le voit, il joue énormément, ça grince, ça couine.
Si tu te bases sur les demi-finales de conf, je ne suis pas inquiet. Il a quand même régalé, il a fait des trucs exceptionnels.
Ouais, est-ce que la corde va... Très inconstant.
Inconstant, mais c'est toujours le cas. Blessé ou pas blessé, quand même.
Non, il y a quand même une plus grande stabilité quand il n'est pas
blessé. Pour moi, c'est ses plus mauvais play-off en carrière à Luka Doncic. Par rapport à ce qu'il a fait il y a deux ans, quand il va en finale de conf, où il perd contre les Warriors.
Mieux accompagné, donc le ballon circulaire,
il est moins dans les mains. Les pourcentages sont dramatiques.
complètement.
42%.
Il a complètement déboussolé le jeune Thunder.
Oui, mais
okay, peut-être qu'il l'attendait parfois au scoring et que il se muait en meneur de jeu et puis inversement et ils ont jamais réussi à trouver une clé pour l'arrêter.
Mais on a vu la vraie marge de progression de cette équipe de Casey, c'est qu'il leur faut un big man parce que c'était trop faible à l'intérieur. Chet Holmgren est un faux big man et ils se sont fait manger. Quand tu vois le Derek Lively, le match 6 qui est exceptionnel, quand tu vois ce que fait Gafford.
J'ai vu que c'était peut-être sur les rangs d'Artenstein.
Artenstein, c'est un bon joueur.
C'est un bon joueur.
Il a eu la circulation un peu sur la fin parce que, comme tout le monde, il avait la langue qui touchait les chaussures.
Bien sûr, mais j'ai vu que. Voilà,
il y en avait deux à gérer en face. Hein. Il y avait Turner et Siakam quand même. Oui. Hein. C'était compliqué.
Il était
tout
seul hein, après à la fin.
Il était tout seul, Artenstein. Oui.
Bah, c'est-à-dire que quand tu as des Allemands. Il est sur Siakam, c'est pas facile.
Après, des Allemands tout seuls, j'ai jamais vu gagner, Pierrot.
Bon, surtout en basket, on dira. Du coup, vous donnez l'avantage à qui? J'ai l'impression plutôt à Dallas sur cette série, Steve.
Écoute, alors, l'avantage du terrain pour Minnesota, faut quand même le dire, même s'ils ont perdu deux chez eux contre Denver la série d'avant. Écoute, moi je partirais sur un 4-2 pour le Dallas Mavericks, baby.
Très bien, Arnaud.
Ils me surprennent cette équipe de Dallas, c'est quand même la deuxième finale de conf en 3 ans. Je reste quand même sur les Wolves où il y a une espèce de feu sacré, je trouve une énergie de cette équipe et allez pourquoi pas, c'est une telle dinguerie à l'ouest, un match 7.
Puis on a peu parlé d'Anthony Edwards qui est capable quand même, j'ai l'impression, de transcender une équipe, hein. C'est-à-dire que d'avoir des performances de joueurs vraiment décisifs en play-off. Hein.
Ah non mais il est monstrueux, on dirait qu'il a 25 ans.
Parce que parfois on parle tactique mais la NBA c'est aussi souvent... des exploits individuels et, enfin pas que des exploits individuels mais les rencontres basculent souvent sur le génie d'un mec
oui,
quand même.
Il a le génie, il a peur de rien, il a des qualités athlétiques extraordinaires, il a progressé dans tous les secteurs.
Il est dans le momentum, le fameux momentum,
et surtout son équipe est capable d'être performante avec un petit Anthony Edwards parce que sur le match 7 il est très mauvais hein. Il met 2 tirs à 3 points qui reboostent un peu à la fin, très important, mais sur la continuité du match il est bon 12 minutes en fait, les 12 dernières minutes de la rencontre. Anthony Edwards,
à qui tu donnes l'avantage, Fred?
Moi, je suis fan de Minnesota.
Ah,
vraiment.
Malgré tout, tu penses qu'ils vont y arriver?
Honnêtement, ça va être très dur, hein, parce qu'encore une fois, je suis pas sûr que ce soit la match-up qui leur convienne le mieux. Je pense que Dallas, c'est une équipe très bien armée, qui a bien recruté. Franchement, c'est beau ce qu'ils ont fait. Mais le momentum aussi, j'ai envie de dire, pour Minnesota.
Et est-ce que l'inexpérience globale de la franchise, ça peut jouer à un moment? Le fait qu'ils ne soient jamais allés en finale, qu'ils plafonnent à ces hauteurs-là, qu'ils ne connaissent pas l'ivresse de ces moments-là, pas ça joue moi. Ou ça joue pas?
Pour moi, pas pour du toi, tout. Parce que justement, c'est des chiens fous. J'ai pas l'impression qu'ils aient peur de quoi que ce soit. Je trouve que c'est hyper intéressant. Ils ont un coach, moi, pour moi, qui surpasse le coach adverse largement. Chris Finch est meilleur pour moi. Donc, je te dis,
meilleur que Jason Kidd.
Après, assis, donc il peut pas vraiment coacher.
C'est vrai, mais bon, il passe.
Après, Minnesota est une équipe peut-être. Pas comme OKC. OKC est une équipe jeune avec des jeunes joueurs qui connaissaient pas le très haut niveau des playoffs. La Minnesota est une équipe un peu moins jeune à mon sens, avec des trentenaires,
plus
équilibrée,
avec des joueurs d'expérience,
qui sont peut-être pas allés si loin en playoffs, mais des mecs qui ont quand même de la bouteille et qui maîtrisent la NBA. Mis à part Anthony Edwards, Carl Anthony Towns, Rudy Gobert, Mike Conley, sont quand même des vieux briscards.
Et j'ai hâte de voir quand même les Timberwolves essayer de rentrer dans la tête de Luka, qui déjà, pour s'énerver, a pas besoin forcément des autres, mais en plus Stephen le disait, ses pourcentages sont pas bons.
Quand même, Luka.
Il a 42%.
Ils font beaucoup d'erreurs.
il s'énerve après les arbitres et je pense que en face, ils vont vouloir rentrer dans sa tête, le faire péter un plomb. Je pense qu'on peut avoir quelques beaux clashs.
C'est un Basket Time spécial finale de conférence direction l'Est. The Boston Celtics have elevated, as far as I'm concerned, to the favorite to win it all. Tatum cycles in and scores, plus the foul. Pure muscle. Spin, finish, through contact. Jackson runs the floor, set up by Siakam. No look inside. Turner on the receiving end from Halliburton. Top assist man in the NBA this year, Tyrese Halliburton. Tatum on the cut, takes it all the way and slams it. Halliburton. Three-pointer flies, it is good. And Siakam finds himself open in the corner, cashes one in. Jaylen Brown. Tatum strong and caught a body. Tatum for three. Oh, yeah. Tatum beats the buzzer. Allez, finale de conférence à l'Est. Indiana est-il un opposant à la hauteur de Boston? Pour l'instant, Boston n'a pas trouvé grand monde avec qui parler. Ils sont au-dessus, à l'Est. Est-ce que c'est Indiana qui peut les embêter, voire les priver de finale NBA? Ça a l'air compliqué, mais je sais pas, vous avez peut-être des arguments en faveur d'Indiana. Tu es hilar, Fred. Les Boston Celtics vont encore décrocher une finale, que ça doit te foutre la haine.
Mais grave, grave. Mais en même temps, on l'a dit, hein, leur parcours il est quand même assez simple. Des équipes qui sont blessées.
Excuse-moi avant de te donner la parole, j'ai oublié le pauvre Arnaud Valadon.
Je suis chaud,
attends. Il a vraiment envie de...
On va faire un petit comparatif sur la saison quand même, des confrontations Boston-Indiana, Arnaud.
Même si il y a le trade Pascal Siakam, évidemment,
qui
a changé beaucoup de choses. C'est les deux meilleures attaques de saison régulière. Elles ont gardé le même rythme en play-off. 114 points de moyenne pour Indiana. Moins pour Boston, 108. Mais aussi avec un pace, un rythme moins élevé, ce qui donne un rating offensif assez proche. En revanche, c'est clairement la défense qui sépare les deux équipes. Indiana a la moins bonne défense des quatre équipes encore en jeu. 118 points en rating défensif contre 96,7 pour Boston, un des meilleurs élèves. Et les confrontations direct. Certes, il y a eu le trade Pascal Siakam. On est à 3-1 pour Boston en saison régulière, avec notamment en tout début de saison un 155-104. Les Celtics ont gagné tous leurs matchs à domicile, mais il y a eu une cinquième rencontre cette saison. C'était le In-Season Tournament. Et sur un match sec, c'était Indiana qui s'était imposé en novembre. 122-112 avec un triple-double de Tyrese Haliburton, 26, 10 et 13.
Alors, vas-y, t'es chaud, tu démarres. Fred.
Non, mais pour l'instant, c'est vrai que Boston a un parcours assez facile, parce qu'à chaque fois qu'ils ont affronté une équipe, elle a été diminuée. Donc maintenant, je demande à voir.
Déjà inférieur et en plus
déjà
diminué.
Déjà inférieur, mais concrètement.
Et c'est le cas aussi un peu d'Indiana face à New York. Hein.
Oui, c'est
donc
vrai.
Ce qui veut
face,
dire que.
Et face à Milwaukee aussi, puisqu'il y a affronté deux équipes.
Donc bien ce qui veut dire qu'il arrive en finale avec, en fait, Boston face à l'équipe qui a le moins subi de blessures de l'Est. En gros,
complètement. C'est à peu près ça. Concrètement, c'est ça. Mais je sais pas quoi te dire. Parce que, effectivement, cette équipe, offensivement, elle peut être hyper intéressante.
Il y a quand même des atouts.
Ils ont des atouts offensivement. Je trouve que défensivement, ils ont montré certaines choses aussi. Parce que quand on parle de Nesmith, par exemple, Nembhard qui défendait sur Brunson, je trouve que c'était pas mal. Ça mettait un gros pressing tout terrain, etc. Sauf que tu joues contre les Avengers. Donc à un moment, c'est compliqué de jouer. Parce que t'es pas une équipe extraordinaire. T'es une bonne équipe. Et qui devrait peut-être pas se situer là. Si les équipes en face avaient pas eu autant de blessés. Donc
il peut y avoir un problème à l'intérieur pour Boston face à Siakam et Turner.
Porzingis
ouais, toujours. Bah alors Turner, je le vois pas très souvent aller à l'intérieur. Le seul problème, ça peut être Siakam, mais voilà, il y a quand même des solutions.
Ah,
il y a des
joueurs. Tonton Horford, quand tu voyages avec Tonton Horford.
Mais c'est ce que je dis. Il y a quand même des solutions. T'as quand même Horford qui est là. Luke Kornet qui peut faire des trucs aussi. Je sais que c'est pas ton joueur préféré, mais il peut faire des trucs. Donc concrètement, moi, il m'impressionne pas.
Non, j'ai rien contre Luke Kornet. C'est juste qu'il a un nom un peu naze, mais ça c'est mais totalement
ça, c'est
gratuit.
Pas de sa faute.
Sur
pas de sa faute.
Non.
Cornet,
déjà, il aurait dû y avoir une vanne de Steve déjà.
Ouais,
d'entrée de
frites,
jeu.
Glace, oui.
Il y a la frite, Cornet. Non, mais moi,
Alizé Cornet.
Alizé Cornet. Bon, voilà, ça c'est spécialiste de tennis. Non, moi je vois pas. En fait, je vois pas cette équipe d'Indiana qui. Elle est là en finale de conf, mais qui m'a pas impressionné. On l'a dit, battu Indiana sans Yanis et Damien Lillard qui a loupé les matchs.
Ouais.
Milwaukee, battu les Knicks. Bon,
il n'y avait pas
l'équipe. Et surtout, il y a un aspect fraîcheur. Ils ont bataillé face à Milwaukee. Ils ont bataillé sur un match 7 face à New York. Il faut déjà enchaîner le match 7. C'était il y a deux jours.
C'est chaud.
Ça veut dire
chaud.
Que là, ils rejouent. Il y a 5 jours de repos en plus pour
Boston.
Boston
n'a pas joué depuis mercredi.
Oui. Ouais. Alors, on va me dire, ils ont perdu le rythme. Enfin, quand tu as joué 90 matchs dans la saison, c'est 5 jours de repos, je ne suis pas sûr que ça fasse ça. Donc, moi, je pense sur le match déjà, il va y avoir boucherie complète. Le problème, c'est que Indiana, pour battre Boston, il faut qu'ils mettent 125 points par match de moyenne. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent des matchs 7.
Ouais, c'est un peu leur force quand même. Ils sont capables de mettre des points.
Mais sur une série.
Oui, mais enfin, sur une série, c'est-à-dire qu'il faut le faire sur 4 matchs. Et surtout,
il faut stopper beaucoup de mecs à Boston quand même.
Il faut surtout défendre aussi, parce que bon, Boston, on ne va pas rappeler les qualités de cette équipe. Mais surtout, Boston, c'est la deuxième meilleure équipe défensive de la ligue. Ils ont tout en magasin pour détruire Tyrese Haliburton avec Derek White, avec Jrue Holiday. Et si ça ne va pas, Jaylen Brown, il ira. Et si ça ne va pas, Jason Tatum, au pire, il ira. Donc moi, je ne vois pas comment cette équipe d'Indiana peut s'en sortir. Je leur souhaite de gagner un match comme toutes les équipes ont fait, parce qu'en Boston, ils arrivent les mains au du guidon, un peu la fleur au fusil.
Carrément,
tu vois
un 4-0-4-1.
Voilà, le match 2.
Comme tout le
monde. Moi, je vois un 4-1, en fait. Je vois un 4-1. Indiana, pour moi, n'a rien en magasin pour contrer cette équipe des Celtics.
Haliburton ne peut pas être ce joueur dont on parlait pour Anthony Edwards.
Il va morfler.
En fait, le problème, c'est qu'il y a trop de gens capables de défendre sur lui dans cette équipe. Je vois l'idée d'Eric White, déjà, c'est monstrueux.
Mais après,
tu as
des catégories de joueurs, donc on les a évoquées, hein, donc les Jokic, Doncic, où tu peux avoir n'importe quelle qualité de défenseur en face, c'est difficile de les stopper.
Ah non, mais Tyrese
Haliburton ne fait pas partie de cette catégorie-là. Est-ce qu'il ne peut pas se révéler dans une finale de conférence?
C'est son jeu. Il a été bon sur la
série de l'année, sur la France contre les Knicks. Ah, déjà.
Contre les Knicks, il fait quand même une bonne série, une très bonne série, à part le premier match où il met 6 points, je crois. Le reste, il est très fort. Sauf qu'il n'y a pas ces défenseurs-là, il n'y a pas cette capacité de switcher à chaque fois. Tu switches là-bas, en fait, c'est dangereux à chaque fois.
Pas assez bien entouré aussi, parce que tout repose énormément sur lui. Il y a Siakam et Turner derrière.
Ils ont quand même
une des bons petits joueurs.
Franchement, moi, je trouve qu'elle est plus.
Ils ont une équipe sympathique, je trouve un peu. Ils ont 7 joueurs qui ont à moins 10 points de moyenne en playoff. Nembhard fait une demi-finale de conf exceptionnelle. Shepard, mine de rien, il donne des bonnes minutes.
McConnell
est très bon. Sur le match 7, il n'y a pas un mec des Pacers qui passe à côté. C'est simple. Même, comme il s'appelle, Isaiah Jackson, il a mis 8 minutes, il a mis 8 points. Ils ont été exceptionnels. Mais c'était face à New York.
New York décimé.
New York était rôti, il était cuit. Boston,
ils sont quand même allés au match 7 pour battre cette équipe de New York qui est assez fabuleuse en termes d'attitude,
de cœur,
d'état d'esprit, mais magnifique. Qui est très limité en termes de basket. C'est vraiment vu au match 7 là.
Et surtout, on me dit Nesmith, ça fait un boulot exceptionnel. Oui, mais les mecs, vous allez jouer Jason Tatum, Derek White, Jrue Holiday, Al Horford. Comment c'est possible? Peyton Pritchard qui va sortir du banc, même Sam Hauser qui va sortir du banc.
Sur Peyton Pritchard, j'ai fait taper les autres avant.
Je vois pas. Le basket, c'est. Il n'y a pas de certitude, Pierrot. Mais là, il faut m'expliquer, même les fans d'Indiana. Il va falloir que quelqu'un appelle au 32-16. Alors, on n'est pas en direct, malheureusement, on ne peut pas prendre d'auditeur. Mais expliquez-moi comment vous avez des espoirs.
Vous laissez les réponses en dessous du tweet de Basket Time. Voilà.
Pour moi, il y a un espoir.
La gastro.
Ils mettent les mains au-dessus du guidon d'entrée.
Ouais, c'est le final de Fred. C'est le confrère.
Attends, ils ont perdu un match contre Miami. Et ils ont fait jouer le kiné. Miami, il n'y avait personne dans l'équipe. À un moment,
ils ont battu New York, c'est Thibodeau, le meneur de jeu.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. À un moment, ils peuvent se relâcher parfois au TD Garden et tu perds.
Pour aller en finale NBA, j'ai du mal à y croire, Fred.
L'absence de Porzingis vaut quoi dans cette série?
Alors, plus les échéances montent, plus il va falloir qu'ils reviennent, le laiton, parce que Cleveland et premier tour, c'était qui? Ils ont Miami. Porzingis ou pas Porzingis, ça passait.
Il n'y avait pas Jared Allen contre Cleveland aussi.
Là, je pense que ça va passer encore. Maintenant, en finale NBA, il faut que le laiton soit là, parce que c'est quand même une arme supplémentaire. Troisième meilleur score de l'équipe qui va dégarnir la raquette et qui va permettre à Brown et Jason Tatum de pénétrer et d'attaquer le cercle. Donc, là, je ne suis pas sûr que ce soit énormément préjudiciable. Par contre, après, si tu affrontes Minnesota ou Dallas.
Non, mais surtout qu'il y en a dans 5, c'est Miles Turner qui joue derrière la ligne à 3 points, donc c'est pas très grave.
Qui
a été bon, je suis d'accord. Sauf que beaucoup sur les shoots à 3 points, quand même.
Oui, du contre.
Oui, mais ça,
belle dissuasion.
C'est dissuasion, mais c'est le meilleur compteur de la franchise en même temps, c'est logique.
Touché au mollet, on rappelle Porzingis. Là, les Celtics ont annoncé qu'il était forfait pour le début de la série.
Les deux premiers matchs,
après c'est un petit peu l'arlésienne et je pense qu'ils veulent pas non plus brusquer.
Après, si Boston est à 2-0, bon, je suis pas sûr qu'il joue le match
de
non plus.
Il va pas jouer, il commencera pour les finales tranquillement.
Donc 4-1 pour Steve, ton pronostic, Arnaud?
4-1 aussi, ça semble cohérent.
Et Fred?
Bon, j'espère un 4-2 pour avoir un peu de suspense, mais concrètement.
Pour Indiana.
Et pour qu'ils aient,
peur un peu.
Pas pour Indiana, pour Boston quand même.
Pour qu'ils aient peur un peu.
Pour qu'ils aient un petit peu peur.
Ah, bien sûr. On continue
pour la finale.
Ce spécial final de conférence avec la partie historique consacrée aujourd'hui à Kevin Garnett.
With the fifth pick in the 1995 NBA draft, the Minnesota Timberwolves select Kevin Garnett.
Garnett receives, turns to the foul line, it's in the air!
The big ticket!
The timeout. Garnett's controlling the push-ups. Then blocks, but a foul as Garnett goes down hard.
Lob it to Garnett beneath the foul line. The fadeaway with a hand in his face in the air for the win! Yes, sir!
And home to the NBA MVP, Kevin Garnett.
The first time that the Timberwolves had the most valuable player, and that player led this league in total points and total rebounds. 2003-2004, NBA MVP, Kevin Garnett.
On a décidé de faire souffrir à Frédéric Weiss aujourd'hui. Alors après avoir dit que Boston c'était fabuleux, fantastique et favori pour le titre, on va parler de son joueur préféré, Kevin Garnett.
Le big ticket.
Légende de la NBA, Kevin Garnett. C'est incontestable.
Hall of Famer.
Ouais, et puis 50 meilleurs joueurs de l'histoire. Bon, il y a tout. Hein.
Un bon joueur de basket.
Fred, dis quelque chose, non?
Mais je vous écoute.
Fred est capable de dire que c'est un bon joueur de basket.
Bah, j'espère bien.
Mais je vous écoute, j'ai pas dit que c'était un mauvais joueur de basket, au contraire.
Est-ce que c'est une merde humaine?
Oui.
Les deux. Pourquoi est-ce qu'on parle de Kevin Garnett? Parce que tout simplement, l'actualité fait la part belle à ces deux franchises, les deux franchises qu'il a marquées de son passage, c'est-à-dire Boston et Minnesota. Il y en a une avec laquelle il a gagné, c'est évidemment Boston. L'autre, qu'il a fait briller sans rien gagner, mais c'est quand même sa franchise historique puisqu'il y a passé tout de même, si je dis pas de bêtises, 14 saisons, Arnaud, quand même.
13 dans une qui compte pas, non, c'est ça.
12 plus 2 à la fin.
12 plus 2 à la fin. Ouais. 12 saisons donc à Minnesota, le trade à Boston en 2007, 6 années passées avec les Celtics, 2 aux Nets, on va quand même pas les oublier avec un trade qui est une direction des Nets de la franchise qui a un peu tué la franchise sur les 10 années qui ont suivi, et puis il est revenu à Minnesota prendre sa retraite. Vous avez entendu David Stern, l'ancien commissionnaire de la NBA, MVP 2004 en étant à la fois meilleur marqueur 24 points, meilleur rebondeur 14 rebonds, 2 contre et 50% au tir. 8 playoffs de suite avec Minnesota de 97 à 2004. Le hic, c'est qu'il ne passait jamais un tour, sauf cette année 2004, défaite en finale de conférence face aux Lakers de Kobe et Shaq, défaite 4-2. Ils ont perdu le premier match chez eux alors qu'ils avaient l'avantage du terrain. Shaq avait signé 27 points et 18 rebonds. 2007, ça change tout. Minnesota ne gagne plus avec sa star. Il est donc tradé à Boston contre Al Jefferson, Theo Ratcliffe, Gerald Green, Ryan Gomez, Sébastien Telfair et 2 premiers tours de draft.
Et un minibus pour amener tout le monde, hein, parce que ça
absolument
fait beaucoup.
Il rejoint donc Ray Allen qui venait d'arriver avec Paul Pierce. Ils sont champions cette année-là, feront encore une finale NBA d'anthologie contre les Lakers en 2010. Longtemps, il fut le joueur le mieux payé de la NBA, 28 millions de dollars la saison. Aujourd'hui, si on ajuste à l'inflation, c'est important, ça fait 46 millions la saison. Ça représentait 40% de la masse salariale des Timberwolves. C'était une des critiques qui lui a été faite, c'était de vampiriser la masse salariale.
C'est une séquence BFM Business.
Mais c'est important.
Ouais, c'est
parce que beaucoup de gens le critiquent au fait qu'il a pris de trop gros chèques et qu'il n'a jamais pu permettre à Minnesota d'avoir une équipe compétitive avec lui.
Alors, la question est la suivante. Où a-t-il réellement marqué l'histoire de la NBA ? Est-ce que c'est avec Minnesota ou avec Boston, Frédéric ?
Je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question. Parce que pour moi, déjà, pour marquer l'histoire, il faut être un des meilleurs joueurs, voire le meilleur de la franchise à son poste. D'accord ? Donc, j'ai regardé un petit peu les statistiques de Garnett et celles de Kevin McHale à Boston. Donc déjà, il n'y a même pas de comparaison. Il y en a un qui marque plus de points, qui a quasiment le même nombre de rebonds et qui a 3 titres. L'autre, il n'y en a qu'un seul, d'accord ? Et il a passé que 6 ans. Donc, je ne vois pas en quoi c'est une légende de Boston, de 1. Et ensuite, oui, sans doute, c'est une légende de Minnesota, mais Minnesota est une équipe qui n'a pas fait grand-chose pour l'instant. Et j'ai regardé les statistiques de Carl Anthony Towns.
Est-ce que tu dirais de Charles Barkley que ce n'est pas une légende de la NBA ?
Ça n'a rien à voir.
Bah, il n'a pas fait gagner les Suns, et il n'a pas gagné de titre ailleurs.
Chaque fois qu'il c'était un des meilleurs, voire le meilleur. Alors, regarde les statistiques de Kevin Garnett à Minnesota en 14 saisons.
Est-ce que ce n'est pas le meilleur joueur de Boston en 2008 ? C'est Paul Pierce ou c'est lui ?
Paul Pierce. C'est Paul Pierce parce que je ne sais pas.
Mais l'icône de Boston en 2008, c'est quand même Paul Pierce.
Je suis d'accord.
Garnett,
hein. Oui, clairement. Oui,
mais sans Garnett,
il n'a joué que 6 saisons.
Paul Pierce n'a pas fait gagner les Celtics.
Enfin, oui. Sans Paul Pierce, Garnett n'est pas champion NBA non plus.
On peut
non,
mais il n'y a joué que 6 saisons.
Et sans Ray Allen, non.
Il faut se rappeler quand même qu'il n'a gagné qu'un seul titre dans une franchise aussi mythique que Boston. C'est rien du tout. Il est passé.
Donc Paul Pierce c'est pas une légende non plus alors des Celtics vu qu'il a gagné qu'un titre. Donc Paul Pierce c'est pas une légende des Celtics non plus.
J'ai jamais dit qu'il est une légende.
Il a fait plus d'années quand même à Boston.
Oui, mais son argument c'est de dire qu'il a gagné qu'un titre.
Oui, mais en fait, il écoute pas. Je dis 6 ans et un titre, c'est tout. Donc
Garnett à Boston c'est un peu LeBron aux Lakers ou un passage.
Non.
Insignifiant. Pourquoi ?
Donc on va changer.
Parce que c'est juste une provocation adressée à.
Bah non.
LeBron James aux Lakers.
Non, je suis d'accord.
Mais clairement, LeBron James a plus marqué la NBA à Miami et à Cleveland qu'aux Lakers.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est indéniable. Mais il a été champion partout.
Il a pris un titre comme.
Oui, mais je te rejoins. Je suis d'accord. Quoi que je pense à LeBron, franchement, les Lakers, c'est pas la première.
Mais la différence sur ce débat, c'est que LeBron a été champion à Miami et à Cleveland, ce qui n'est pas le cas de Kevin Garnett à Minnesota.
À Minnesota, 14 saisons, d'accord. Et j'ai regardé les stats de Carl Anthony Towns. Vous savez, ce joueur qu'on a tous décrié, qui est nul, etc. Bah, ses stats sont meilleures sur 9 saisons.
Oui, parce qu'il y a 2 saisons pourries qui flinquent ses stats.
Ouais, ça, c'est son problème. Moi, je regarde les statistiques. Je ne rate pas dans le détail.
Tu ne regardes pas dans le détail. C'est un peu ce qu'on demande à ce débat.
J'ai regardé les statistiques. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est certainement une légende. Il a été MVP. C'est la première fois qu'un joueur de Minnesota a été MVP. Donc, félicitations à lui. Mais pour moi, je suis désolé.
Comparons-le à Laurent Foirest, peut-être que ça va.
Laurent Foirest, c'est légende d'Antibes. Attention. Non, mais moi, j'ai tendance à rejoindre Fred. Légende de Boston, la franchise est trop grande. A connu trop de joueurs exceptionnels pour que Kevin Garnett rentre dans ce système de légende des Celtics. C'est une franchise.
C'est même pas le meilleur Kevin.
Ça reste quand même leur dernier titre à l'heure actuelle.
Oui, je suis d'accord.
Donc, plus ça va tarder, plus ce titre va être légendaire.
C'est une franchise historique. favori qui a vu passer les plus grands joueurs de la ligue. Donc pour moi, à Boston, c'est compliqué. Après, à Minnesota, c'est une franchise jeune déjà. Donc il n'a pas encore eu la même histoire et le même vécu que les Celtics. Mais ce qu'a fait Kevin Garnett à Minnesota en tant que joueur, mec, il faut quand même se rappeler. Mettons de côté le désamour pour le mec et pour la personne. Le joueur que c'était, c'était un peu une révolution dans la ligue.
Mais un mec, Kevin Garnett, c'est un mauvais joueur.
Ah oui,
c'est un débile profond.
Mec va passer par la fac. Il arrive du collège directement. Un mec qui fait 2-12, qui traverse le terrain.
Athlétique.
Défensivement, les contres, les rebonds. Et puis à Minnesota, si tu regardes les records historiques, c'est le mec qui a pris plus de points, plus de rebonds, plus de passes, plus de rebonds défensifs, plus de contres. C'est Kevin Garnett en fait. Alors il a fait une finale de conf certes, dans une équipe où il n'était pas très bien accompagné, par sa faute ou pas par sa faute. J'ai tendance à dire que le niveau auquel il était à Minnesota, il méritait de prendre ses 28 millions parce qu'il n'y avait pas aussi fort que lui à son poste de jeu. Et puis voilà, cette espèce de trash talking un peu de faible qu'il avait souvent avec des joueurs moins gaillards que lui. Mais le joueur en lui-même, le basketteur, c'est exceptionnel, Kevin Garnett.
Donc plutôt à Minnesota, plutôt il a marqué Minnesota. La ligue.
Ouais, ouais. Les chiffres sont ahurissants à Minnesota.
Oui, plutôt à Minnesota parce qu'il a permis d'avoir des bilans positifs pendant de nombreuses années, se qualifier cette année de suite. On a vu après, il y a eu l'air Kevin Love qui était pas trop mal, mais ça ne faisait pas les playoffs. Donc il a vraiment.
Là, c'était le meilleur Kevin, du coup.
Kevin Garnett, c'est le meilleur de Kevin.
Oui, ouais. Sur ça, Boston, Stephen a pratiquement tout dit. L'histoire est tellement riche. Après, je regardais et c'est pas mal. C'est un bon baromètre quand tu vois un joueur qui revient, s'il est acclamé ou pas. Il y avait une belle ovation du Garden quand Garnett est revenu avec Minnesota notamment. Il a quand même marqué de son empreinte cette franchise. De là à dire légende, quand tu vois les noms que tu mets devant, je pense que c'est un petit peu juste pour Boston et pour Minnesota.
Non mais après, on peut quand même se demander, serait-il autant respecté, aurait-il autant marqué la NBA s'il n'avait pas eu ce titre avec Boston, malgré tout.
Il aurait été regardé dans
aurait suffi, c'est pas sûr quand même.
Ouais, mais c'est là que c'est dur. Alors tu vois, je vais prendre sa défense. C'est là que c'est dur, parce qu'effectivement, il a été fantastique, il a créé une nouvelle ère de joueurs, un joueur aussi dominant, aussi fantastique, sauf qu'il était dans une franchise pourrie. Donc concrètement, c'est là que ça devient injuste, et c'est là qu'on se dit que NBA, si t'as pas de
donc
titre,
il a bien fait pour aller être champion avec les deux
autres Oscars. Et puis attends, on parle de Kevin Garnett à Boston, il est pas sur la jante quand il est à Boston.
Il est
énorme. Alors les chiffres sont moindres parce qu'il joue moins de minutes et parce qu'il est mieux entouré aussi qu'à Minnesota.
Mais son impact
est exceptionnel. Défenseur de l'année quand même quand il est à Boston, oui. il est 5 ou 6 fois dans la meilleure 5 défensif, il est 15 fois All-Star. Kevin Garnett, c'est un joueur.
C'est tout ce que représente l'intensité pour moi. Quand je pense intensité, je pense Kevin Garnett.
Les contres, les rebonds, les traversées de terrain, les dunks, aller voir des highlights de Kevin Garnett. À Minnesota, il met des posters de l'espace.
Et dernière chose, est-ce que ce titre de Boston, il a un petit arrière-goût de cheat code pour vous? Est-ce que c'était trop facile là,
le Big
de...
Four, le Big Three?
Ouais.
Ah, mais être autant en place dès le début, parce que quand on regarde les big teams qui se construisent, elles gagnent jamais la première année. Eux, ils ont gagné direct.
Voire, elles ne gagnent jamais
avec
tout court.
Avec Doc Rivers,
et puis,
ce qui peut mettre...
Ouais, ça c'est quand même très, très fort.
Et puis, ils ont recréé aussi cette espèce de rivalité ancestrale, Lakers Celtics, avec l'arrivée de Garnett. Quand ils tapent les Lakers pour être champion, 2 ans après, Kobe raffronte cette équipe, il n'a qu'une envie, c'est les taper. Il y avait quand même un peu d'histoire dans ces confrontations.
Je rejoins ce qu'a dit Arnaud, c'est vrai. Doc Rivers, s'il signe au Bucks, c'est encore grâce à ça. Hein. Il surfe encore sur cette vague-là, parce que le gars, il est catastrophique depuis des années. Hein. Et pourtant, quand tu penses à Doc Rivers.
Alors, Bobby Portis a déclaré cette nuit que Doc Rivers avait fait de lui un joueur différent.
Oui. Alors, il n'a pas dit meilleur.
Ouais,
différent.
Voilà. Différent.
Et Pierre, j'ai une question pour Fred. Est-ce qu'il préfère aller dîner avec Kevin Garnett ou jouer à l'Embiid?
Ben, il y en a un qui n'a pas insulté mon pays, donc je dirais Kevin Garnett.
D'accord, voilà. C'est tout ce que je voulais savoir.
Après, c'est pas ça la vraie question. C'est qui est le moins bon à prendre à la bagarre? C'est Kevin Garnett ou Joel Embiid? Parce que s'il y a un dîner, les mecs vont arriver énervés.
Moi, je pense que le moins bon, c'est Joel Embiid à prendre. Parce que Kevin Garnett, tu sais que si t'es plus grand
Kevin
que lui.
Kevin Garnett, c'est du bluff. Donc lui, je sais que c'est du bluff.
Après,
alors
Kevin Garnett,
Embiid,
quand tu vois ses biceps, t'as pas envie d'y aller. Hein.
Oui, mais il embrouillait que les petits. Jamais il embrouillait un mec.
Il a mis une chiquette à quelqu'un, c'est Tim Duncan par derrière.
Oui.
Ça, et après, il est parti.
À la Mathieu Jalibert, tu sais.
Ouais.
Bien, alors on va voir si vous êtes le Paul Pierce ou le Kevin Garnett du quiz désormais.
Kawhi Leonard. Ah, Carmelo Anthony au Madison Square Garden.
Absolument pas, Stephen Brun. Vous êtes tellement mauvais, ça me fait kiffer.
Quel porciné peut shooter sans scrupule
Quel croquette.
Je commence.
Bah, quel salaud celui-là.
Un indice, c'est la machine à triple-double.
Oh, yeah, Nicolas.
Russell Westbrook. Ah, OK, si.
Moi, je dis Abdul-Jabbar, mais...
Abdul-Jabbar, c'est bon.
Ouais, je suis une merde.
Alors, le quiz, donc, sur l'actualité. L'actualité des playoffs essentiellement, mais on démarre quand même par une petite question de culture générale, puisqu'on a deux franchises qui portent le nom de leur état, là, Indiana et Minnesota, puisque c'est Minneapolis.
Utah Jazz aussi.
Et Indianapolis. Les villes. Donc, j'en profite pour un petit quiz sur Minnesota, Indiana.
C'est quoi la question ?
C'est des questions.
Ah, ok, ok.
Des questions sur ces deux états. Réponse, c'est soit Minnesota.
En cinquième, j'ai pas fait le géo des États-Unis.
Mais c'est comme ça, quoi. Comme ça, on apprend en plus des choses, tu vois, on se cultive sur la culture américaine.
Ouais, c'est vrai, t'as raison, je vais le prendre comme ça, allez.
Pense surtout à nos auditeurs, nos auditrices qui apprennent en plus des choses sur l'histoire des États-Unis.
C'est beau. Ouais, mais nous, on apprend aussi, du coup.
Ben oui, du coup, vous apprenez aussi. Minnesota, Indiana, les deux ou aucun des deux, Steve.
Oui.
J'ai une frontière avec le Canada.
C'est superbe. Alors,
frontière, essaye de visualiser
où
se trouvent ces deux états.
C'est là-haut. Donc, je vais dire Indiana.
C'est Minnesota.
Ah ouais.
Oui,
ah,
mais ça, c'est là-haut aussi.
Ah ouais, je sais pas où c'est.
Tout au nord.
C'est
Minnesota.
Pas très loin du Wisconsin que tu connais bien.
Ah ouais. Ah ouais.
Arnaud, donc Minnesota, Indiana, les deux ou aucun des deux. Avant l'arrivée des premiers colons, j'étais peuplé d'Indiens.
Christophe Colomb.
Je dirais Minnesota.
Alors, si tu réfléchis deux secondes, le nom d'Indiana vient d'où, d'après toi ? La réponse, c'était les deux. Donc, tant pis pour toi. Et Fred, Minnesota, Indiana, les deux ou aucun des deux, mes premiers colons étaient des Français.
C'était Totof Colomb.
Bah, Minnesota.
Eh bien, c'est Indiana. Minnesota, c'était des Scandinaves. Donc...
C'est dans le nom.
Mais en fait, comme c'était dans le nom, ils sont passés par.
Voilà, on a compris qu'on avait trois mecs qui étaient arrêtés au 6e, 5e.
L'histoire des États-Unis, c'est pas non plus
complexe,
très étudié en France, hein, ce qui est normal. Donc, zéro sur la culture G. On va démarrer donc par une question facile.
Fred, c'est le meilleur sur le point G.
J'espère pour lui et surtout pour sa femme. Donc, question facile pour vous, pour ouvrir le score là. Quel joueur. Né à West Baden Springs dans l'Indiana, a joué 13 saisons à Boston, remportant 3 titres de champion, Larry Bird évidemment. On a fait la partie historique sur Kevin Garnett, on aurait pu la faire sur Larry Bird.
Indiana-Boston, effectivement.
Qui est quand même un joueur, un garçon de l'Indiana, qui a entraîné Indiana.
Coach, ouais.
Donc le premier point, c'est pour Arnaud. C'était une question facile, on va voir les autres. Karl Anthony Towns représente la République Dominicaine en sélection. Quel autre joueur toujours qualifié dans ses playoffs est un international dominicain à l'Orford.
Par respect pour Pierre, moi j'écoute les questions qu'il a travaillées, qu'il a écrites.
Bonne réponse d'Arnaud qui a compris que c'était aussi parfois une question de rapidité et qui mène 2-0. Je vais vous passer une interview, vous allez essayer de me dire qui parle. Si vous ne reconnaissez pas sa voix, essayez d'écouter ce qu'il dit.
And I finally made the Western Conference Finals with out LeBron. Also no more hearing what a pro wants.
Kyrie Irving a enfin fait la finale à l'Ouest sans LeBron James. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Pourquoi est-ce qu'il précise ça ? C'est important
pour lui. Parce qu'à l'Est, il a déjà fait des finales.
Il a dit, en fait, il finit cette déclaration en disant c'est le joueur le plus important de ma vie. C'est-à-dire, il s'émancipe.
L'émancipation.
C'est la première finale.
Parce que quand tu dis Kyrie Irving, tu penses toujours à LeBron, tu penses toujours à Cleveland, donc ça fait du bien
c'est
de
fou, en fait.
Essayer de faire quelque chose.
C'est quand même un joueur très respecté, même si lui aussi est un peu cintré et sur ce qu'on pense de la personne. Il y a beaucoup de choses à redire.
Même si c'est un joueur ultra respecté,
et pourtant il sort cette phrase.
Il paraît plus cohérent, là, mais il fait des conférences de presse un peu touchante, tu sens qu'il y a beaucoup d'émotions. Même Lucas, les deux se kiffent.
Je pense par contre, c'est un mec intelligent lui.
C'est un joueur qui a encore approuvé.
Il est fou,
apparemment.
Mais il est intelligent.
Ouais. Donc le point est accordé à Stephen Brun qui a reconnu.
Il n'a pas entendu la fin.
Tu as reconnu sur la voix ou sur le discours ?
Sur la voix et quand il a dit Western Conference without LeBron, vu que je suis un peu bilingue.
Alors, chacun votre. Ouais, c'est vrai d'ailleurs.
Oui.
On va voir si vous connaissez bien les rosters à fond. D'accord, les rosters de ces équipes qui sont qualifiées en finale de conférence.
Ouais.
Chacun votre tour, je vous donne le nom d'un joueur.
Et vous me dites s'il joue.
Vous me dites tout simplement le nom de sa franchise.
Ah ouais,
chacun notre tour.
Ça va être des sous-fifs. Ouais,
c'est des sous-fifs.
C'est un peu le who he play for du début de saison.
Mais franchement, normalement, vous devez.
Ouais, normalement. Ouais. Fred, il a les rosters sous les yeux, donc il va réussir.
effectivement, tu as raison.
Allez, on va commencer par Arnaud, tiens. Oscar Tshiebwe.
Le frère de Fabrice.
Vous l'avez les autres ou pas ?
Oscar Tshiebwe, je vais dire.
Donc vous l'avez pas.
Moi j'aurais dit Boston.
Minnesota.
Non, c'est l'intendant d'Indiana lui, non ?
C'est l'intendant d'Indiana. Il joue à Indiana, mais vous auriez pu le savoir parce qu'il est quand même rookie de l'année en J-League.
Ah oui, oui. Bien sûr.
Bah oui.
J'ai vu tous les matchs.
Peut-être t'aurais dû, je sais pas.
Je connais que Mac McGlory.
Joueur d'Indiana. Frédéric Vess.
Oui.
T'as compris le niveau des joueurs qu'il allait te dire.
Non, parce que celui-là, franchement, il est connu. Xavier Tillman.
Oh
bah, c'est facile ça.
Oui, c'est facile.
De Boston.
Exactement.
Il jouera pas d'ailleurs, il a perdu son papa, le pauvre.
C'est le frère de Laurie.
Et enfin, Stephen Josh Minot. Joue le Minot
en prison.
Oh, Minot!
Minot!
Just Minot!
Il a des minutes hein, en playoff.
Il joue à l'OM déjà.
Des minutes. Minot, il devrait jouer à l'OM.
Alors, il y a eu un joueur d'Indiana, il y a un joueur de Boston. En tout cas, il n'est pas à Dallas. Je te le dis tout de suite, il n'est pas à Dallas. Bon. Il est à Josh Minot, il est à Minnesota.
C'était une très, très bonne réflexion. Il est à Minnesota. Alors, me connaissant, j'aurais pu redonner un joueur d'Indiana, mais tu as bien fait de réfléchir comme ça. Josh
Tillman,
Minot.
C'était facile quand même. Hein.
Tillman, c'était facile. Mais je voulais juste que Fred cite Boston. Ah, cela dit, Tillman ne joue pas beaucoup. Hein. Peu utilisé malgré l'absence de Porzingis.
Il avait commencé à Memphis où il avait pas mal joué. Et...
Donc ça fait 2 points pour Steve, 2 points pour Arnaud et 1 point pour Fred grâce aux Boston Celtics. On enchaîne avec un vrai ou faux sur Jason Tatum.
Chacun votre tour.
C'est qui ?
Chacun votre tour. C'est qui, Jason Tatum ? Alors, on démarre avec Steve. Oui. En 2016, il a failli signer à l'Olympiakos avant de choisir la fac de Duke. Tu savais pas ça?
Je savais pas parce que c'est faux.
C'est faux. J'ai inventé. Arnaud, dans sa jeunesse, son meilleur ami, c'est Devin Booker.
C'est vrai.
Non, c'est faux, c'est Bradley Beal. C'était l'autre. Par contre, ça c'est vrai. Il était ami avec Bradley Beal. Et enfin, Fred, Jason Tatum est un dingue de tacos. C'est souvent des questions gastronomie hein, dans les vrais faux.
C'est vrai.
C'est absolument vrai. D'ailleurs, un de ses surnoms, c'est Taco J.
Ouais, bien sûr.
Voilà. Et ça, tu aurais pu le savoir.
Guacamole.
Au lieu de répondre au hasard.
C'est Guacamole, son deuxième surnom.
Deuxième prénom.
Tout le monde est à égalité de 2.
Non, j'ai 3, frère.
Oui, il y a 3, ouais.
Oui, il y a 3.
Oui, parce que tu as eu la bonne réponse sur l'Olympiakos. Oui. Excuse-moi, tu as 3. Ouais. Qui a fait cette déclaration? Ça fait 4 ans que je repasse cette action en boucle.
Ça fait 4 ans que je repasse cette action en boucle. C'est un mec qui a fait une connerie.
Chez Gilles Alexander.
Non.
Non. Un mec qui a fait une connerie.
Ça fait 4 ans.
Ça fait 4 ans
que je repasse.
Un mec qui joue actuellement
en playoff. C'est en boucle et enfin, il est allé au-delà.
Kyrie.
Tatum.
Pas Kyrie. C'est pas Tatum.
Brown.
C'est pas Brown.
C'est Tyrese Haliburton.
Non.
Pascal Siakam.
Quelqu'un qui a vécu une grande première là récemment.
Une grande première.
Au bout d'une carrière qui commence à être longue parce que c'est presque un vétéran.
Non.
Pas tout à fait, mais il a une longue expérience et jusqu'ici.
Alors Ford, Kidd.
Jusqu'ici. Mike Conley n'avait jamais gagné un match 7.
Oui, c'est vrai.
Et surtout, lui restait en tête ce match contre Denver en 2020 avec le Jazz où il rate le game winner.
Ouais.
Voilà. Et donc, il a dit, j'ai ressassé cette action pendant 4 ans. Et enfin, il est passé au-delà. Encore un bon signe pour Minnesota.
Oui.
Tu vois ?
Oui, oui, je sais.
Ils sont capables. Qui a de la bonne réponse ?
C'est Fred et moi.
Fred Weiss, tu égalises avec Steve. Qui parle ainsi des New York Knicks, pardon ?
The Knicks are gritty, they grunty, they play for 48 years.
Moi, j'imagine que c'est Kevin Garnett.
C'est ton ami Kevin Garnett.
Il a pas ses lunettes de soleil
exactement.
Quand il parle.
T'as déjà dîné avec lui pour connaître sa voix.
Ah, mais c'est lui, quand il marche sur le maillot de Brunson, par terre, non ? Il se suit les lunettes sur le maillot de Brunson.
Alors là, attention.
En tous les cas, tu l'as pas vu, il a ses lunettes de soleil, il parle comme. Il a une voix toute pourrie.
Il s'est mis 4
plaintes. Il a une voix toute pourrie. Et le mec, il a même la haine de sa voix. C'est incroyable. Tu trouves qu'il a une voix pourrie ?
Non, franchement, quand il exagère comme ça, oui, un petit peu.
Alors, en revanche, sa déclaration, elle est intéressante. Il dit les Knicks sont parfaits comme ça. La question était, est-ce qu'il faut leur ajouter une option numéro 1, surtout ? Oui. Il disait non, ils sont parfaits comme ça. En plus, ils ont Randle qui est ce genre de joueur.
Il explique qu'il est à 20-10
déjà. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Je sais pas, je me pose la question. Alors Randle, ça a pas fité, je pense pas que ça fite. Mais effectivement, mettre une grosse star à côté de Brunson.
Brunson, la star.
Ouais, je suis pas sûr que ce soit un bon choix.
Il a montré qu'il avait la carrure pour porter une franchise complexe.
Et donc vous êtes d'accord avec la déclate de Garnett plutôt, sur New York ?
Moi plutôt, ouais.
Oui, et ils peuvent trader Randle. Je pense que ça va être une des options envisagées.
Alors là, j'ai un petit problème, mon cher Fred. C'est que tu as 4 points, Steve a 3 et Arnaud a 2. Il reste la question multipoint, mais cette semaine, elle est facile. Elle est facile. Et vous allez la jouer aux enchères, ce qui veut dire que d'entrée de jeu, Arnaud peut plier le game. Ensuite, Stephen pourra aussi, puisqu'on monte les enchères dans l'ordre inverse du score. Ouais. D'accord ? La première enchère sera posée par Arnaud,
donc,
la deuxième par Steve,
et après tu réponds.
Et la troisième par Fred. Quels sont ? Écoutez-moi bien, réfléchissez avant de répondre, parce que c'est un seul de vous ne répondra à la question. Quels sont les 5 franchises actuelles qui n'ont jamais joué de finale NBA ? Arnaud,
il les a. Si
t'as les 5 et que tu me sors les 5 sans erreur, tu as gagné.
Qui n'ont jamais joué de finale NBA.
Finale NBA.
je note.
Je vais dire 4.
4. Est-ce que tu enchéris, Steve?
Oui, je vais enchérir et je réfléchirai.
Donc,
après.
Tu as les 5.
Ah non, putain, 4. Non, je vais pas.
Je croyais
qu'il était parti plus bas.
Fred, est-ce que tu enchéris pour sauver ta victoire ou est-ce que tu comptes sur la défaite, sur le choc de Arnaud Valadon?
Pourquoi t'as pas fait 5, toi? Moi, je veux bien que tu gagnes toi, mais pas lui.
Je sais pas, parce que il faut réfléchir à toutes les franchises d'NBA, en fait.
Réfléchir, mais vous les avez, les 5. Hein. Arnaud, je pense que c'est à toi, Fred. Tu enchéris
non.
pas. Donc, tu m'as dit 4, je t'écoute.
Timberwolves.
Bien sûr.
Les Clippers.
Excellent.
Ça, j'avais les deux. C'était pas les plus durs, ça.
Ensuite.
Tu bugs déjà alors que t'as annoncé 4.
Bah oui, mais je fais un petit peu dans ma tête.
Ouais. Fais un petit peu dans ta tête, vas-y.
Un petit peu. Non, mais de toute façon, je vais pas.
Les Bulls.
Oui.
Les Lakers.
Mais c'est pas mal ça.
Bon, on va pas y passer 3 jours. Hein. Si tu les as pas, tu t'as perdu. Hein.
Les Hornets. Pas,
les Hornets, c'est bon. Charlotte Hornets, c'est bon.
Mais je profite parce que je suis content d'être avec vous. Tu vois, il y a un petit peu le plaisir.
Il t'en manque un et t'as 2 solutions. Et franchement, c'est facile.
Mais en fait, j'essaie de me faire
si les. Tu les avais sous les yeux, tu dirais bah oui, bien sûr. Tu les as, c'est Yestif les a. T'as les 5.
Moi, j'ai arrêté de réfléchir. Moi, je suis plus dans le jeu. Moi, je réfléchis plus.
Je vais dire.
Allez.
Les Memphis Grizzlies.
C'est bon. Tu as gagné le quiz et la 5e. Attends. Est-ce qu'on remet en jeu sur la 5e pour Fred? T'as la 5e, Fred, ou pas?
Les Nets?
Bon, allez, t'as perdu.
Non, les Nets, ils ont fait
finale.
Les Pelts.
Les Pelicans, évidemment. Victoire d'Arnaud Valadon. Bravo, Arnaud. À la semaine prochaine.
Au revoir.
RMC Basket Time.